La couleur tombée du ciel. À l'ouest d'Arkham, les collines sont sauvages et il est des vallées dont les bois profonds n'ont jamais subi la hache. Il est d'étroites et sombres gorges où les arbres s'inclinent bizarrement, où de minces ruisselets filtrent sans avoir jamais reflété l'éclat du soleil. Sur les versants plus doux, d'antiques fermes branlantes aux chaumières trapues, couvertes de mousse, ruminent éternellement les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre à l'abri de grandes corniches rocheuses. Mais toutes sont vides à présent. Leurs larges cheminées s'effritent et leurs flancs recouverts de bardeaux bombent dangereusement sous les toits bas à double pente. Les gens d'autrefois s'en sont allés et les étrangers ne veulent pas vivre là. Des Canadiens français ont essayé, des Italiens, des Polonais. Tous sont venus et repartis. Non qu'il y ait quoi que ce soit qu'on puisse voir, entendre ou toucher. C'est quelque chose que l'on imagine. L'endroit ne vaut rien pour l'imagination et n'inspire pas la nuit de rêves reposants. Cela doit être ce qui éloigne les étrangers. Car le vieil Amy Pierce ne leur a jamais raconté ce qu'il se rappelle de ce diable de temps. Amy, d'esprit un peu dérangé depuis des années, est le seul qui reste ou qui parle toujours de ce diable de temps. Il ose le faire parce que sa maison est très près des champs découverts et des voies fréquentées autour d'Arkham. Il y avait autrefois une route à travers les collines et les vallées qui passait juste là où est maintenant la lande foudroyée. Mais les gens l'ont abandonnée et une nouvelle a été tracée, beaucoup plus déviée vers le sud. On trouve encore des traces de l'ancienne parmi les herbes folles d'une nature sauvage qui reprend ses droits. Et il en subsistera certainement même quand la moitié des terres basses seront inondées pour le nouveau réservoir. Alors, les bois obscurs seront abattus et la lande foudroyée sommeillera au fond des eaux bleues dont la surface reflétera le ciel et frémira au soleil. Et les secrets de ce diable de temps ne feront plus qu'un avec ceux des profondeurs, avec le savoir caché du vieil océan et tout le mystère de la terre des origines. Lorsque je parcourus les collines et les vallées pour lever le plan du nouveau réservoir, on me dit que les lieux étaient maudits. J'ai appris cela des gens d'Arkham, mais comme c'est une très vieille ville pleine de contes de sorcières, j'attribuais la malédiction à une de ces légendes que les grands-mères, depuis des siècles, chuchotaient aux enfants. L'expression lande foudroyée me sembla très bizarre, théâtrale, et je me demandais comment un peuple puritain avait pu l'inclure dans son folklore. Puis je vis par moi-même, à l'ouest, ce sombre enchevêtrement de gorges et de pentes. Et je ne me posais plus de questions, excepté sur son antique mystère. C'était le matin que je le vis, mais l'ombrière restait tapie tout le jour. Les arbres poussaient trop serrés, et les troncs étaient trop gros pour une forêt bien tenue de Nouvelle-Angleterre. Trop de silence dans la pénombre des allées qui les séparaient, et trop mou le sol de mousse humide et les tapis de pourriture d'une infinité d'années. Dans les espaces découverts, surtout le long du tracé de l'ancienne route, il y avait de petites fermes à flanc de colline. Certaines avaient gardé tous leurs bâtiments intacts, d'autres seulement un ou deux, et quelquefois rien qu'une cheminée solitaire ou une cave qui se comblait rapidement. Ronces et mauvaises herbes régnaient, et des créatures sauvages glissaient furtivement dans les broussailles. Sur tout cela flottait une brume fiévreuse et oppressante, une note d'irréalité grotesque. Comme si un élément essentiel de perspective ou de clair-obscur eût été faussé. Je ne m'étonnais pas que les étrangers n'y puissent rester, car il n'était pas là de place pour le sommeil. Cela ressemblait trop à un paysage de Salvator Rosa, trop à quelques gravures sur bois interdites dans un récit de terreur. Mais ce n'était rien encore auprès de la lande foudroyée. Je la reconnus au moment même où j'y arrivais. Au fond d'une large vallée. Aucun autre nom n'aurait mieux convenu à ce lieu, et aucun lieu n'aurait mieux porté ce nom. On eût dit que le poète avait forgé l'expression après avoir vu cet endroit si particulier. Je me dis en le contemplant que c'était sans doute le résultat d'un incendie. Mais pourquoi rien n'avait-il repoussé sur ces cinq arpents de désert gris qui s'étalaient sous le ciel comme une immense tache creusée par un acide au milieu des champs et des bois? Elle se trouvait nettement au nord de l'ancienne route, mais empiétait un peu de l'autre côté. J'éprouvais une étrange répugnance en m'approchant, et je ne le fis enfin que parce que mon travail m'obligeait à la traverser. Il n'y avait pas la moindre végétation sur cette vaste étendue, rien qu'une fine poussière ou quelques cendres grises que nul vent ne semblait jamais soulever. Les arbres aux alentours étaient rabougris, souffreteux, et beaucoup de troncs morts, debout, renversés, pourrissaient au bord. Avançant à pas pressés, j'aperçus à ma droite les pierres et les briques écroulées d'une vieille cheminée et d'une cave, puis la noire gueule béante d'un puits abandonné dont les vapeurs stagnantes produisaient de curieuses illusions en changeant de nuances au soleil. La longue et sombre pente boisée, au-delà, fut la bienvenue par contraste, et je ne m'étonnais plus des chuchotements effrayés des gens d'Arkham. Je n'avais vu ni maison ni ruine à proximité. Même autrefois, l'endroit devait être solitaire et loin de tout. Au crépuscule, redoutant de retraverser ce lieu sinistre, je rejoignis la ville en faisant un détour par la route déviée par le sud. Je souhaitais vaguement voir se former quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Dans la soirée, j'interrogeais les vieilles gens d'Arkham à propos de la lande foudroyée et de ce que signifiaient ces mots « diable de temps » que tant d'entre eux murmuraient comme évasivement. Mais je n'obtins aucune réponse positive, sinon que le mystère était beaucoup plus récent que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas du tout de vieilles légendes, mais de faits survenus du vivant de ceux qui parlaient. C'était d'arriver dans les années 1880. Une famille avait disparu ou avait été tuée. Mes interlocuteurs ne voulaient pas préciser, et comme ils m'avaient dit de ne prêter aucune attention aux histoires de fous du vieil Amy Pierce, j'allais naturellement le voir le lendemain matin, ayant appris qu'il vivait seul dans l'antique chaumière branlante juste à l'endroit où les arbres devenaient très touffus. C'était une demeure effroyablement archaïque. Elle commençait à exhaler la vague odeur malsaine qui s'attache aux maisons debout depuis trop longtemps. Je dus frapper avec insistance avant d'éveiller le vieil homme. Et quand craintivement il vint à la porte en traînant des pieds, je compris qu'il n'était pas content de m'avoir. Il n'était pas aussi affaibli que je m'y attendais. Mais ses yeux curieusement baissés, ses vêtements et sa barbe blanche négligée lui donnaient un air épuisé et lugubre. Ne sachant trop comment m'y prendre pour déclencher son récit, je pris prétexte de mon travail et lui parlait d'arpentage en l'interrogeant vaguement sur le pays. Il était beaucoup plus éveillé et instruit qu'on ne me l'avait laissé entendre. Et avant que je ne m'en rende compte, il avait saisi la question au moins aussi bien que tous les gens d'Arkham avec qui j'avais discuté. Il n'était pas comme les autres paysans que j'avais connus dans les régions où étaient prévus des réservoirs. Aucune protestation de sa part pour les étendues de vieux bois et domaines qui allaient disparaître, comme il y en aurait eu peut-être si sa demeure ne s'était pas trouvée hors des limites du futur lac. Il n'exprima que son soulagement de savoir condamner les antiques et sombres vallées qu'il avait parcourues toute sa vie. Il serait mieux sous l'eau à présent, mieux sous l'eau après ce diable de temps. Et sur ce préambule, sa voix enrouée s'éteignit, tandis qu'il se penchait en avant et pointait en tremblant son index droit de manière impressionnante. C'est alors que j'entendis l'histoire, et pendant que la voix, grinçant et chuchotant, poursuivait son discours décousu, je frissonnais plus d'une fois, même en ce jour d'été. Il me fallut souvent tirer le compteur de ses digressions, compléter des détails scientifiques qu'il ne connaissait que par le souvenir formel et fugitif de propos et de spécialistes, ou combler les brèches où échouait son sens de la logique et de la continuité. Quand il eut fini, ne m'étonnais plus que son esprit soit quelque peu fêlé, ou que les gens d'Arkham ne veuille pas trop parler de la lande foudroyée. Je regagnai en hâte mon hôtel avant le coucher du soleil, pour ne pas voir surgir les étoiles au-dessus de moi en terrain découvert. Et je rentrai le lendemain à Boston pour donner ma démission. Je n'aurais pas pu entrer de nouveau dans le chaos obscur de cette vieille forêt abrupte, ni affronter une fois de plus cette grise lande foudroyée où béaient les profondeurs du puits noir près des briques et des pierres écroulées. À présent, le barrage sera bientôt construit, et tous ces vieux secrets à jamais en lieu sûr sous des brasses d'eau. Mais même alors, je ne crois pas que j'aimerais visiter ce pays la nuit, du moins quand les sinistres étoiles sont levées, et rien ne saurait me décider à boire la nouvelle eau de la ville d'Arkham. Tout commença, dit le vieil Amy, avec la météorite. Jusqu'alors, il n'y avait pas eu de légende extravagante depuis le procès des sorcières. Et même à cette époque, ces bois occidentaux étaient beaucoup moins redoutés que la petite île du Miskatonic où le démon tenait sa cour, à côté d'un curieux hôtel de pierre plus ancien que les Indiens. Ce n'étaient pas des bois hantés, et leur pénombre fantastique ne fut jamais effrayante jusqu'à ce diable de temps. Puis, il y avait eu ce nuage blanc en plein midi, ce chapelet d'explosions dans les airs, et cette colonne de fumée montant de la vallée au cœur des bois. À la nuit, tout Arkham savait qu'un gros rocher tombé du ciel s'était logé dans la terre, à côté du puits chez Nahum Gardner. C'était sa maison qui se trouvait à l'endroit où la lande foudroyée allait s'étendre. La coquette maison blanche de Nahum Gardner, entourée de ses jardins fertiles et de ses vergers. Nahum était allé en ville pour raconter aux gens l'histoire de la pierre, et sur le chemin, il était passé chez Amy Pierce. Amy avait alors 40 ans, et tous ces événements bizarres restaient fortement gravés dans son esprit. Lui et sa femme avaient accompagné les trois professeurs de l'université de Miskatonic qui s'étaient empressés le lendemain matin d'aller voir le mystérieux visiteur venu de l'espace stellaire inconnu, et s'étaient étonnés que Nahum l'ait décrit si grand la veille. Il avait rétréci, dit Nahum, en montrant du doigt le plus gros monticule brunâtre au-dessus de la terre éventrée et de l'herbe carbonisée. Dans sa cour d'entrée, près de l'archaïque bascule du puits, mais les savants répondirent que les pierres ne rétrécissent pas. Sa chaleur persistait encore, et Nahum affirma qu'elle luisait faiblement la nuit. Les professeurs auscultèrent la pierre avec un marteau de géologue et la trouvèrent étrangement molle. Si molle, en vérité, qu'elle était presque plastique. Et ils durent creuser, au lieu de prélever un éclat, pour rapporter à l'université un spécimen à analyser. Ils le mirent dans un vieux seau emprunté à la cuisine de Nahum, car même ce petit morceau refusait de refroidir. Au retour, ils s'arrêtèrent chez Amy pour se reposer et parurent pensifs quand Mrs. Pierce leur fit observer que le fragment devenait plus petit et brûlait le fond du seau. En effet, il n'était pas gros, mais peut-être en avait-il pris moins qu'il ne pensait. Le jour suivant, tout ceci se passait en juin 82, les professeurs ressortirent tous ensemble, très excités. En passant devant chez Amy, ils lui racontèrent la manière bizarre dont le spécimen s'était comporté et comment il s'était entièrement volatilisé lorsqu'il l'avait mis dans un verre à bec. Le verre avait disparu lui aussi, et les savants parlèrent de l'affinité de l'étrange pierre avec le silicium. Elle avait réagi de façon absolument incroyable dans ce laboratoire bien équipé. Inerte, et ne dégageant aucun gaz quand on la chauffa sur du charbon de bois, totalement insensible au borax, elle se montra bientôt résolument non volatile à n'importe quelle température, y compris celle du chalumeau oxydrique. Sur une enclume, elle se révéla extrêmement malléable, et dans l'obscurité, sa luminosité était très prononcée. Son obstination à ne pas refroidir eut au fait de mettre l'université en ébullition. Et quand, chauffée devant le spectroscope, elle produisit des raies brillantes qui différaient de toutes les couleurs du spectre normal, il y eut beaucoup de discussions fiévreuses à propos d'éléments nouveaux, de propriétés optiques bizarres, enfin tout ce que les hommes de science perplexes disent d'habitude lorsqu'ils sont confrontés avec l'inconnu. Toute brûlante qu'elle était, on l'éprouva au creuset avec les divers réactifs adéquats. L'eau resta sans effet. L'acide chlorhydrique de même. L'acide nitrique et même l'eau régale ne firent que siffler et crachoter devant son invulnérabilité torride. Amy eut du mal à se rappeler tout cela, mais il reconnut certains dissolvants lorsque je les citais dans leur ordre habituel d'usage. Il y eut l'ammoniac et la soude caustique, l'alcool et l'éther, liqueur en sulfure de carbone et une douzaine d'autres. Mais bien que le poids du fragment diminua régulièrement avec le temps et qu'il sembla se refroidir quelque peu, aucune altération des solvants ne montra qu'ils avaient en rien attaqué sa substance. C'était un métal. Pourtant, à n'en pas douter. D'abord, il était magnétique. Et après son immersion dans les dissolvants acides, on crut discerner de légères traces de figures de Widmanstätten que l'on trouve sur le fer météoritique. Quand le refroidissement fut devenu très sensible, on continua les réactions dans un verre. Et ce fut dans un verre à bec qu'on mit tous les débris prélevés sur le fragment original au cours du travail. Le lendemain matin, débris et verre avaient disparu sans laisser de traces, et seul un endroit calciné marquait sur l'étagère de bois la place qu'ils avaient occupée. Les professeurs racontèrent tout cela à Amy lorsqu'ils s'arrêtèrent à sa porte, et une fois de plus, il les accompagna pour voir le messager de pierre venu des étoiles, mais sa femme, cette fois, ne vint pas avec eux. Il avait maintenant manifestement rétréci, et même les sages professeurs ne purent mettre en doute la vérité de ce qu'ils voyaient. Tout autour de la masse brune diminuée, près du puits, s'étendait un espace vide, sauf là où le sol était creusé. Alors qu'elle faisait bien 7 pieds de diamètre la veille, elle en mesurait à peine 5 maintenant. Elle était encore brûlante, et les savants étudièrent avec curiosité sa surface, en prélevant un nouveau morceau plus important, avec un marteau et un ciseau. Ils creusèrent profondément cette fois, et en détachant un morceau plus petit, ils s'aperçurent que le cœur de la masse n'était pas tout à fait homogène. Ils avaient mis au jour ce qui semblait la surface d'un gros globule coloré encastré dans la substance. La couleur, qui rappelait celle des raies du spectre étrange du météorite, était presque indescriptible. Ce fut seulement par analogie qu'on parla de couleur. Sa texture était lustrée, et en le tapotant du doigt, on le devinait creux et cassant. L'un des professeurs, l'ayant frappé vigoureusement de son marteau, il éclata avec un petit bruit sec et percutant. Rien ne s'en dégagea, et l'explosion ne laissa aucune trace. Il en resta une cavité sphérique vide d'environ 3 pouces. Et tous furent d'avis qu'ils s'en découvriraient d'autres à mesure que s'épuiserait la matière qui les contenait. Hypothèse décevante, et après de vains sondages en quête de nouveaux globules, les chercheurs se retirèrent avec leur dernier spécimen, qui se révéla d'ailleurs au laboratoire aussi déconcertant que son prédécesseur. Mis à part qu'il était presque plastique, doué de chaleur, de magnétisme et d'une faible luminosité, qu'il se refroidissait légèrement dans les acides puissants, que son spectre était inconnu, qu'il se volatilisait dans l'air et attaquait les composés de silicium, entraînant une destruction mutuelle, il ne présentait aucun trait qui permet de l'identifier. Si bien qu'au terme de leurs expériences, les spécialistes de l'université durent reconnaître qu'ils ne pouvaient pas le situer. Qu'il n'était pas de cette terre, c'était une parcelle du grand ailleurs, et comme telle, dotée de caractéristiques d'ailleurs et soumise à des lois d'ailleurs. Il y eut un orage cette nuit-là, et quand les professeurs se rendirent chez Naoum le lendemain, ils furent amèrement déçus. La pierre, du fait de son magnétisme, devait avoir quelques propriétés électriques particulières, car elle avait attiré la foudre, comme disait Naoum, avec une étrange persistance. 6 fois en 1 heure, le fermier avait vu l'éclair sillonner la cour d'entrée, et quand l'orage fut fini, rien ne restait près du vieux puits à balancier qu'un cratère au bord déchiqueté à moitié comblé par les éboulis. On avait creusé en vain et les scientifiques confirmèrent que tout avait disparu. L'échec était complet. Il ne restait donc plus qu'à rentrer au laboratoire et à reprendre les analyses sur le spécimen évanescent qui restait soigneusement enfermé dans un récipient de plomb. Ce fragment dura 1 semaine, au terme de laquelle on n'en avait rien appris d'intéressant. Quand il eut disparu, il n'en resta pas trace. Et avec le temps, le professeur n'était plus très sûr d'avoir vraiment vu, bien réveillé, ce mystérieux vestige des abîmes insondables d'ailleurs, cet unique message fantastique d'autres univers, d'autres domaines de matière, d'énergie et d'être. Naturellement, les journaux d'Akam montèrent en épingle l'incident avec son parrainage universitaire et envoyèrent des reporters pour interviewer Naum Gardner et sa famille. De Boston, un quotidien au moins envoya aussi un scribe, et Naum devint vite une sorte de célébrité locale. C'était un personnage sec et jovial, d'une cinquantaine d'années, qui, avec sa femme et ses trois fils, vivait de la jolie ferme dans la vallée. Lui et Amy se rendaient de fréquentes visites, comme le faisaient également leurs épouses. Et Amy n'avait qu'à se louer de lui après toutes ces années. Il semblait être assez fier de la notoriété qu'il s'était acquise, lui et sa maison, et parla souvent du météorite au cours des semaines suivantes. Juillet et août furent très chauds, et Nahum travailla dur à faire les foins dans son pré de 10 arpents, derrière Chapman's Brook. Sa charrette bruyante creusait de profondes ornières dans les chemins ombreux qui y menaient. Le travail le fatigua davantage que les années précédentes, et il se dit que l'âge commençait à se faire sentir. Puis vint l'époque des fruits et de la moisson. Les poires et les pommes mûrirent lentement, et Naum jura que jamais ses vergers n'avaient été si prospères. Les fruits, d'une grosseur phénoménale et d'un éclat inaccoutumé, poussaient en telle abondance qu'on commanda des tonneaux supplémentaires en vue de la future récolte. Mais la maturité apporta une cruelle déconvenue, car de tout ce somptueux déploiement de succulences trompeuses, pas une parcelle n'était mangeable. Dans l'exquise saveur des pommes et des poires s'était insinuée une amertume nauséeuse, si bien que la moindre bouchée causait un durable dégoût. Il en allait de même avec les melons et les tomates. Et Naum comprit tristement que toute sa récolte était perdue. Prompt à relier les événements, il affirma que le météorite avait empoisonné la terre et remercia le ciel de ce que la majeure partie des autres récoltes fut dans les hautes terres le long de la route. L'hiver fut précoce et très froid. Amy vit Naum moins souvent que d'habitude et remarqua qu'il commençait à avoir l'air soucieux. Le reste de la famille devenait aussi taciturne. Ils étaient loin d'aller régulièrement à l'église ou de participer à la vie sociale du pays. On ne découvrit pas la cause de cette réserve ou de cette mélancolie, bien que toute la maisonnée avouât de temps à autre une santé déclinante et un sentiment de vague malaise. Nahum lui-même s'expliqua plus précisément que les autres quand il se dit troublé par certaines traces de pas dans la neige. C'étaient les empreintes, habituelles l'hiver, d'écureuils roux, de lapins blancs, de renards. Mais le fermier préoccupé affirmait voir quelque chose d'anormal dans leur nature et leur disposition. Il ne donna jamais de détails, mais semblait juger qu'elles ne correspondaient pas à ce que devait être l'anatomie et les habitudes d'écureuils, de lapins et de renards. Amy écouta distraitement ses propos jusqu'au soir où il passa en traîneau devant chez Naum en revenant de Clark's Corner. Il y avait clair de lune. Or, un lapin traversa la route en courant. Et les bonds de ce lapin étaient si longs qu'ils ne plurent ni à Amy ni à son cheval. Ce dernier, en fait, se serait emballé s'il n'avait été retenu d'une main ferme. Par la suite, Amy accorda plus d'attention aux histoires de Naum et se demanda pourquoi les chiens des gardeneurs paraissaient si déprimés et tremblants tous les matins. Ils avaient, à l'évidence, presque perdu le courage d'aboyer. En février, les fils MacGregor de Meadow Hill allèrent chasser la marmotte et tuèrent non loin de chez Gardner un spécimen très curieux. Les proportions de son corps semblaient légèrement modifiées d'une façon bizarre, impossible à décrire, tandis que sa tête avait pris une expression que personne n'avait jamais vue à une marmotte. Les garçons furent vraiment effrayés et jetèrent aussitôt le monstre. Si bien que les gens du pays n'en surent jamais rien d'autre que leur grotesque récit. Mais le recul des chevaux près de la maison de Nahum était désormais un fait reconnu. Et toutes les bases d'un cycle légendaire de bouche à oreille prenaient forme rapidement. On soutenait que la neige fondait plus vite autour de Chenaoum que partout ailleurs. Et au début de mars, il y eut une discussion effrayée dans la boutique de Potter à Clark's Corner. Stephen Rice, étant passé en voiture devant chez les Gardner dans la matinée, avait remarqué les choux punais qui émergeaient de la boue près des bois de l'autre côté de la route. Jamais on n'en avait vu d'aussi énormes, et ils prenaient des couleurs si étranges qu'il n'était pas de mots pour les décrire. Leur forme était moins monstrueuse, et le cheval s'ébroua devant une odeur qui frappa Stephen, car elle était absolument unique. Cet après-midi-là, plusieurs personnes passèrent voir la végétation anormale, et toutes convinrent que des plantes de cette espèce ne devraient jamais pousser dans un monde bien portant. On parla ouvertement de fruits gâtés ou de l'automne précédent, et le bruit courut de proche en proche que le domaine de Nahum était empoisonné. Naturellement, c'était le météorite. Et se rappelant combien les universitaires avaient trouvé cette pierre surprenante, plusieurs fermiers allèrent leur en parler. Un jour, les professeurs rendirent visite à Nahum. Mais aucun n'ayant penchant pour les récits extravagants et le folklore, ils furent très mesurés dans leurs conclusions. Les plantes étaient certainement bizarres, mais tous les choux punais l'étaient plus ou moins, de forme, d'odeur et de teinte. Peut-être un élément minéral de la pierre avait-il pénétré le sol, mais il serait bientôt emporté par la pluie. Quant aux empreintes et aux chevaux effrayés, c'était là bien sûr simple bavardage de campagne qu'un phénomène comme l'aérolite ne pouvait manquer de susciter. Les gens sérieux n'avaient jamais vraiment que faire de ces cas de commérages insensés, car les paysans superstitieux disent et croient n'importe quoi. Donc tout au long de ce diable de temps, les professeurs se retranchèrent dans le mépris. Un seul, quand on lui donna un an et demi plus tard deux flacons de poussière à analyser par la police, se rappela que l'étrange couleur de ce chou punais était très proche de l'une des raies lumineuses anormales produites par le fragment du météore dans le spectroscope de l'université, et aussi du globule cassant découvert encastré dans la pierre venue de l'abîme. Les échantillons de cette analyse révélèrent d'abord les mêmes raies étranges, bien que plus tard, ils perdissent cette particularité. Les arbres bourgeonnèrent prématurément autour de Chenaoun, et la nuit, ils se balançaient dans le vent d'une manière inquiétante. Le second fils de Nahum, Thaddeus, un gars de 15 ans, soutenait qu'il se balançait aussi quand il n'y avait pas de vent. Mais même les commères refusaient de le croire. Pourtant, à n'en pas douter, il y avait de l'agitation dans l'air. Toute la famille Gardner prit l'habitude d'écouter furtivement, sans néanmoins attendre aucun son qu'on pût consciemment définir. Cette écoute, en fait, naissait plutôt de moments où la conscience semblait les quitter à moitié. Malheureusement, ces moments se multiplièrent d'une semaine à l'autre, jusqu'à ce qu'on dise couramment que tout le monde était détraqué chez Nahum. Lorsque la première saxifrage s'épanouit, elle avait une autre couleur étrange. Pas tout à fait celle du chou punais, mais nettement apparentée et tout aussi inconnue de ceux qui la virent. Nahum emporta quelques fleurs à Arkham pour les montrer au rédacteur en chef de la Gazette, mais ce grand personnage se contenta d'écrire à leur sujet un article humoristique où les craintes mystérieuses des campagnards étaient poliment tournées en ridicule. Nahum avait commis l'erreur de raconter à un citadin flegmatique comment les grands papillons cap de deuil, devenus démesurés, se comportaient par rapport à ces saxifrages. Avril communiqua aux paysans une sorte de folie et commença alors, pour la route qui passait devant chez Nahum, ce progressif abandon qui aboutit à sa finale désuétude. C'était la végétation. Tous les arbres du verger se couvrirent de fleurs aux couleurs singulières. Du sol pierreux de la cour et du pré adjacent surgirent des plantes bizarres que seul un botaniste eût pu rattacher à la flore authentique de la région. Nulle part on ne voyait de couleurs saines et naturelles, sauf dans l'herbe verte et le feuillage. Partout ailleurs, ces variantes fiévreuses et prismatiques de quelques morbides tonalités fondamentales sous-jacentes, impossibles à situer parmi les teintes connues sur Terre, les culottes des Hollandais devinrent un objet de sinistre menace. Et les sanguinaires se firent insolents dans leur perversion chromatique. Amy et les Gardner trouvaient à la plupart de ces couleurs une sorte de familiarité obsédante. Et ils convinrent qu'elles rappelaient l'une de celles du globule cassant dans la météore. Nahum laboura et ensemença le pré de 10 arpents, ainsi que la parcelle à flanc de colline. Mais il ne toucha pas au terrain autour de la maison. Il savait que ce serait inutile, espérant que l'étrange végétation de l'été drainerait le sol de tout le poison. Il s'attendait maintenant presque à n'importe quoi, et s'était accoutumé à sentir près de lui quelque chose qui comptait bien se faire entendre. Que les voisins évitent sa maison l'affecta, bien sûr, mais sa femme en fut touchée davantage. Les garçons sentiraient mieux, car ils allaient tous les jours à l'école, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par les commérages. Thaddeus, adolescent particulièrement sensible, souffrait plus que les autres. En mai, les insectes arrivèrent et la ferme de Nahum devint un cauchemar de bêtes bourdonnantes et rampantes. La plupart ne semblaient pas tout à fait normales dans leur apparence et leurs mouvements. Leurs mœurs nocturnes contredisaient toute expérience. Les gardeneurs prirent l'habitude de veiller la nuit, guettant au hasard, dans toutes les directions, quelque chose qu'ils ne savaient quoi. Ce fut alors qu'ils reconnurent tous combien Thaddeus avait eu raison à propos des arbres. Mrs. Gardner fut la seconde à l'observer par la fenêtre tandis qu'elle regardait les rameaux gonflés d'un érable sur le ciel éclairé par la lune. Il bougeait, c'était certain, bien qu'il n'eût pas de vent. C'était sans doute la sève. L'insolite, à présent, avait investi tout ce qui poussait. Pourtant, l'événement suivant ne fut découvert par personne dans la famille de Nahum. L'accoutumance les avait engourdis, et ce qu'ils ne pouvaient pas voir fut aperçu par un timide représentant en éolienne venu de Boston qui, ignorant tout des légendes du pays, y passa de nuit en voiture. Ce qu'il conta à Arkham fit l'objet d'un entrefilet dans la Gazette, et c'est là que tous les fermiers, Nahum y compris, l'apprirent d'abord. La nuit était noire, et les lanternes du bogey insuffisantes. Mais autour d'une ferme de la vallée, que chacun, d'après l'article, reconnut pour celle de Nahum, les ténèbres étaient moins denses. Une luminosité faible, mais distincte, semblait émaner de toute la végétation, herbes, feuilles et fleurs aussi, tandis qu'un élément isolé, de la phosphorescence, paraissait se déplacer furtivement dans la cour, près de la grange. L'herbe avait jusqu'alors semblé intacte, et les vaches paissaient librement sur la parcelle proche de la maison. Mais vers la fin de mai, le lait commença à se gâter. Alors Nahum fit mener les vaches sur les hautes terres, après quoi tout rentra dans l'ordre. Un peu plus tard, l'herbe et les feuilles se mirent manifestement à changer. Toute la verdure devenait grise et prenait une consistance singulièrement cassante. Amy était à présent la seule personne qui vint jamais à la ferme, et ses visites se faisaient de plus en plus rares. Quand l'école ferma, les gardeneurs furent pratiquement coupés du monde, et laissaient parfois Amy se charger de leurs courses en ville. Il déclinait curieusement, tantôt au physique que du point de vue mental, et personne ne fut surpris d'apprendre que Mrs. Gardner était devenue folle. Cela se produisit en juin, à peu près à l'anniversaire de la chute du météore. Et la pauvre femme criait qu'elle voyait dans l'air des choses qu'elle ne pouvait décrire. Il n'y avait que son délire. Et pas un seul substantif précis, uniquement des verbes et des pronoms. Des choses bougeaient, changeaient, flottaient. Et les oreilles tintaient sous l'effet d'impulsions qui n'étaient pas que sonores. Quelque chose lui était enlevé. On la vidait de quelque chose collé à elle, qui ne devait pas exister. Quelqu'un devait l'en débarrasser. Rien n'était jamais immobile dans la nuit. Les murs et les fenêtres changeaient de place. Nahum ne l'envoya pas à l'asile du comté. Il la laissa errer dans la maison tant qu'elle fut inoffensive pour elle-même et pour les autres. Même quand son expression changea, il n'intervint pas. Mais lorsque les garçons commencèrent à avoir peur d'elle, et que Thaddeus faillit s'évanouir en voyant les grimaces qu'elle lui faisait, il décida de l'enfermer au grenier. En juillet, elle avait cessé de parler et se traînait à quatre pattes. Et avant la fin du mois, Naoum conçut l'idée insensée qu'elle luisait faiblement dans le noir, comme il le voyait faire nettement à présent à la végétation environnante. Peu de temps auparavant, les chevaux s'étaient échappés. On ne sait ce qui les avait réveillés dans la nuit, mais les ruades et les hennissements dans leur stalle étaient terrifiantes. Il semblait qu'on ne pût quasiment rien pour les calmer, et quand Nahum ouvrit la porte de l'écurie, ils se ruèrent tous dehors comme des daims sylvestres qui s'affolent. Il fallut une semaine pour les retrouver tous quatre, et l'on s'aperçut alors qu'ils étaient absolument bons à rien et rebelles. Quelque chose avait craqué dans leur cervelle, et on dut les abattre l'un après l'autre pour leur propre bien. Nahum emprunta un cheval à Amy pour rentrer ses foins. Mais l'animal refusa d'approcher de la grange. Il bronchait, se dérobait, hennissait. Et Nahum finalement n'eut d'autre solution que de le conduire dans la cour, tandis que les hommes tiraient à bras le lourd chariot assez près du fenil pour pouvoir le décharger à la fourche. Pendant tout ce temps, la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs aux teintes si bizarres tournaient au gris, ainsi que les fruits ratatinés et insipides. Les asters et les verges d'or fleurissaient gris et déformés. Les roses, les ignaces et les roses trémères de la cour d'entrée étaient une telle insulte à la nature que Zénas, le fils aîné de Naoum, les coupa tous. Les insectes étrangement envahissants moururent peu à peu près à cette époque. Même les abeilles, qui avaient fui leurs ruches et gagné les bois. En septembre, toute la végétation s'émietta rapidement en une poudre grisâtre, et Nahum craignit que les arbres ne meurent avant que la terre fût débarrassée du poison. Sa femme, à présent, était sujette à d'effroyables hurlements, si bien que lui et les garçons subissaient une tension nerveuse constante. Ils évitaient les gens maintenant, et lorsque l'école ouvrit, les enfants n'y retournèrent pas. Ce fut Amy qui se rendit compte le premier, lors d'une de ses rares visites, que l'eau du puits n'était plus bonne. Elle avait un mauvais goût, ni vraiment fétide, ni vraiment saunâtre, et il engagea son ami à creuser un autre puits sur un terrain situé plus haut, qui servirait jusqu'à ce que le sol fût redevenu sain. Mais Nahum ne tint aucun compte de ce conseil, car à ce moment-là, il était devenu insensible aux choses étranges et déplaisantes. Lui et les garçons continuèrent à user la réserve d'eau infectée, buvant avec la même apathie machinale qu'ils mettaient à manger leurs maigres repas mal préparés et à faire les corvées ingrates et monotones de leur vie sans but. Il y avait en eux tous une sorte de résignation impossible, comme s'ils marchaient à moitié dans un autre monde, entre des rangs de gardes anonymes vers un destin fatal et familier. Thaddeus devint fou en septembre, après être allé au puits. Il était parti avec un seau et revint les mains vides, criant, gesticulant, et tombant parfois dans un ricanement stupide ou un chuchotement à propos des couleurs qui bougeaient tout au fond. Deux dans la même famille, c'était un peu beaucoup, mais Nahum fut très courageux. Il laissa le gamin en liberté pendant une semaine, jusqu'à ce qu'il commence à trébucher et se blesser. Puis il l'enferma dans une mansarde en face de celle de sa mère, de l'autre côté du couloir. Les hurlements qu'ils échangeaient à travers leurs portes verrouillées étaient épouvantables, surtout pour le petit Merwin, car il se figurait qu'il parlait une terrible langue qui n'était pas de ce monde. Il avait une imagination débordante, et sa nervosité s'aggrava quand il se vit séparé de son frère, qui était son meilleur camarade. Presque en même temps commença l'hécatombe des animaux domestiques. Les volailles devinrent grisâtres et moururent très rapidement. Leur chair se révéla sèche et infecte quand on les ouvrit. Les porcs devinrent extraordinairement gras, puis subirent brusquement des transformations répugnantes que personne ne put expliquer. Bien entendu, leur chair était inutilisable. Et Nahum en perdait la tête. Aucun vétérinaire rural ne voulait s'approcher de chez lui, et celui d'Arkham était franchement déconcerté. Les pourceaux, avant de mourir, apparaissaient gris, friables et tombés en morceaux. Leurs yeux et leurs groins présentaient des altérations singulières. C'était d'autant plus inexplicable qu'ils n'avaient jamais été nourris de végétation contaminée. Ensuite, les vaches furent atteintes. Certaines zones où parfois l'ensemble du corps se flétrissait ou se réduisait mystérieusement, et d'atroces effondrements ou désintégrations étaient courants. Au dernier stade, et la mort s'ensuivait toujours, la grisaille et l'émiettement gagnaient tout, comme ils le faisaient des porcs. Il ne pouvait être question d'empoisonnement car tous les cas se produisaient dans une étable fermée à clé et protégée. Aucune morsure de bête en maraude n'avait pu transmettre le virus puisque aucun être vivant du monde ne saurait passer au travers des obstacles consistants. Il ne pouvait s'agir que d'une maladie naturelle. Encore qu'une maladie responsable de pareils résultats en échec tous les diagnostics. Quand vint la moisson, pas un animal n'avait survécu à la ferme. Le bétail et la volaille étaient morts et les chiens s'étaient enfuis. Il y en avait trois qui avaient tous disparu une nuit et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Les cinq chats étaient partis quelque temps auparavant, mais on l'avait à peine remarqué puisqu'il semblait n'y avoir plus de souris et que seule Mrs. Gardner s'était attachée à ces gracieux félins. Le 19 octobre, Nahum était arrivé chancelant chez Amy avec de nouvelles atroces. La mort avait saisi le pauvre Thaddeus dans sa mansarde, et d'une manière dont on ne pouvait rien dire. Nahum avait creusé une tombe dans l'enclos familial, derrière la ferme, et y avait enseveli ce qu'il avait trouvé. Rien n'avait pu venir de l'extérieur, car la petite fenêtre à barreaux et la porte fermée à clé étaient intactes. Mais c'était pire que ce qu'il y avait eu dans la grange. Amy et sa femme consolèrent du mieux qu'ils purent l'homme abattu, mais ils le firent en frémissant. Une terreur sans nom semblait s'attacher au gardeur et à tout ce qu'il touchait. La seule présence de l'un d'eux dans la maison était un souffle venu de régions innommées et innommables. Émir accompagna Nahum chez lui avec beaucoup de répugnance et fit ce qu'il put pour apaiser les sanglots convulsifs du petit Merwin. Zenas, lui, n'avait pas besoin d'être calmé. Il en était venu dernièrement à ne faire rien d'autre que regarder dans le vide et obéir aux ordres de son père. Et Amy pensa que pour lui c'était une bénédiction. Par moments, au cri de Merwin, un faible écho venait du grenier, et en réponse, un regard interrogateur, Naomi dit que ça faiblissait beaucoup. La nuit approchant, Amy s'arrangea pour prendre congé. L'amitié même n'aurait pu le décider à rester alors qu'apparaissait la vague lueur de la végétation et que les arbres pouvaient ou non se balancer sans vent. C'était vraiment une chance pour Amy de n'avoir pas plus d'imagination. Malgré tout, son esprit en fut un tant soit peu dérangé. Mais eût-il été capable de relier et de méditer tous ces prodiges autour de lui, qu'il fût inévitablement devenu complètement fou. Dans le demi-jour, il rentra en hâte chez lui. Les cris de la démente et de l'enfant à bout de nerfs résonnant affreusement à ses oreilles. 3 jours plus tard, de grand matin, Nahum survint en trébuchant dans la cuisine d'Amy et, en l'absence de son hôte, balbutia encore une autre histoire désolante, tandis que Mrs. Pierce écoutait, saisie de terreur. Il s'agissait du petit Merwin cette fois. Il avait disparu. Il était sorti tard le soir pour chercher de l'eau avec une lanterne et un seau. Il n'était jamais revenu. Il ne se contrôlait plus depuis longtemps et savait à peine ce qu'il faisait. Criait pour un rien. Alors, il y avait eu un hurlement frénétique du côté de la cour, mais avant que le père puisse ouvrir la porte, le gamin avait disparu. On ne voyait pas la lumière de la lanterne qu'il avait emportée et aucune trace de l'enfant lui-même. Nahum crut d'abord que la lanterne et le seau étaient partis aussi. Mais à l'aube, comme il revenait d'un pas pesant de toute une nuit de recherche par les bois et les champs, Il avait découvert des choses bien curieuses près du puits. Un morceau de fer broyé, apparemment quelque peu fondu, et qui certainement avait été la lanterne, tandis qu'à côté une anse tordue et des cercles de fer en zigzag, également éprouvés par le feu, rappelaient les restes d'un seau. C'était tout. Nahum n'imaginait plus rien. Mrs. Pierce avait la tête vide, et Amy, quand il rentra et entendit l'histoire, n'eut pas de réponse à proposer. Merwin avait disparu et il serait vain de le dire aux gens du voisinage, qui évitaient désormais tous les Gardner. Inutile aussi d'en informer les citadins d'Arkham, qui se moquaient de tout. Tad n'était plus, et maintenant Mernie s'en allait. Quelque chose rampait, rampait, attendant de se faire voir, entendre et sentir. Nahum s'en irait bientôt, et il voulait qu'Amy s'occupe de sa ferme et de Zenas, s'il lui survivait. Tout ça devait être un châtiment, en quelque sorte. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, car il avait toujours honnêtement marché sur les voies du Seigneur, pour autant qu'il le sût. Pendant plus de 2 semaines, Amy ne revit plus Nahum. Puis, inquiet de ce qui avait pu se passer, il domina ses craintes et se rendit chez les Gardner. Aucune fumée ne montait de la grande cheminée, et pendant un instant, le visiteur appréhenda le pire. La ferme offrait partout un spectacle affreux. Par terre, l'herbe et les feuilles grisâtres étaient flétries, les débris des vignes cassantes tombaient des murs et des archaïques pignons. Les grands arbres nus griffaient le ciel gris de novembre avec une malveillance délibérée qu'Amy ne put s'empêcher de sentir un changement subtil dans l'inclinaison des branches. Mais finalement, Nahum vivait encore. Étendu sur un divan dans la cuisine au plafond bas, il était faible, mais parfaitement conscient et capable de donner à Zenas des ordres simples. La pièce était glaciale, et comme Amy frissonnait visiblement, l'hôte cria d'une voix rauque à Zenas d'apporter encore du bois. Le bois, en fait, manquerait cruellement, car l'âtre profond était sans feu, vide, et la bise qui soufflait par la cheminée y souleva un nuage de suie. Nahum demanda bientôt si le bois supplémentaire l'avait un peu plus réchauffé. Alors, Amy comprit ce qu'il en était. La corde la plus solide avait fini par se rompre, et l'infortuné fermier n'aurait plus d'autre chagrin. Ces questions discrètes n'obtinrent aucun éclaircissement sur les absences de Zenas. Dans le puits, il vit dans le puits, fut tout ce que le père tira de son esprit embrumé. Brusquement, le visiteur se rappela la folle et reprit son enquête dans une autre direction. Nabi? Ben, elle est là, répondit le pauvre Nahum, surpris. Et Ami vit bien qu'il devait chercher lui-même. Laissant sur son lit l'innocent ifrat d'auteur, il prit les clés au clou près de la porte et grimpa l'escalier grinçant jusqu'au grenier. L'odeur de renfermé et la puanteur étaient terribles en haut, et l'on n'entendait aucun bruit nulle part. Des 4 portes du couloir, une seule était verrouillée, et il essaya dessus diverses clés du trousseau qu'il avait pris. La troisième était la bonne, et après quelques tâtonnements, Amy ouvrit la porte. Il faisait très sombre à l'intérieur, car la fenêtre était petite et à demi condamnée par de grossiers barreaux de bois, de sorte qu'Amy ne distingua rien sur le plancher. L'odeur nauséabonde était insoutenable et, avant d'aller plus loin, il dut battre en retraite dans une autre pièce pour revenir les poumons pleins d'air respirable. Quand il entra enfin, il aperçut une forme noire dans un coin, et l'ayant distinguée plus clairement, il se mit carrément à hurler. Ce faisant, il lui sembla qu'un nuage éclipsait un moment la fenêtre, et une seconde plus tard, il se sentit frôlé par une immonde bouffée de vapeur. Des étranges couleurs dansèrent devant ses yeux, et si une horreur trop présente ne l'avait paralysé, il aurait pensé aux globules dans le météore que le marteau du géologue avait brisé et à la végétation malsaine qui avait poussé au printemps. En l'occurrence, il ne songea qu'à la chose monstrueuse et impie qui était devant lui, et avait manifestement partagé l'épouvantable sort du jeune Thaddeus et du bétail. Mais le plus affreux était que cette abomination bougeait très lentement, mais nettement, sans cesser de s'effriter. Amy ne voulut pas me donner d'autres détails sur cette scène. Mais dans son récit, la forme dans le coin ne reparaissait pas comme un objet mouvant. Il y a des choses qu'on doit passer sous silence. Ce qu'on peut faire par simple humanité est parfois cruellement jugé par la loi. J'en conclus qu'il ne resta rien de vivant dans la mansarde, et qu'y laisser quoi que ce soit qui pût encore bouger eût été un acte assez monstrueux pour condamner n'importe quel être responsable à un éternel tourment. Tout autre qu'un fermier flegmatique aurait perdu connaissance ou serait devenu fou. Mais Amy franchit en toute conscience cette porte basse, en fermant à clé derrière lui le détestable secret. Il fallait maintenant s'occuper de Nahum, le nourrir, le soigner et le transporter quelque part où l'on se chargerait de lui. Amy commençait à descendre l'escalier quand il entendit un bruit sourd au-dessous de lui. Il crut même qu'un cri avait été brusquement étouffé et se rappela avec inquiétude la brume gluante qui l'avait frôlé dans la chambre terrible d'en haut. Quelle présence son entrée et son hurlement avaient-ils fait surgir? Retenu par une crainte confuse, il entendit encore d'autres bruits en bas. À n'en pas douter, celui d'un objet pesant qu'on traînait, et le son hideusement visqueux d'une espèce de succion diabolique et immonde. Par un rapprochement instinctif, poussé fébrilement à l'extrême, il songea inexplicablement à ce qu'il avait vu là-haut. Grand Dieu, dans quel fantastique monde de cauchemar s'était-il fourvoyé? N'osant ni avancer ni reculer, il restait là, tremblant devant la courbe obscure où s'enfonçait l'escalier. Chaque détail de la scène se grava dans son cerveau. Les sons, l'atroce sensation d'attente, les ténèbres, la raideur des degrés étroits et, bonté divine, la faible mais évidente luminosité de toutes les boiseries visibles, marches, parois, lattes apparentes et poutres également. Alors retentit dehors un hennissement frénétique du cheval d'Amy, aussitôt suivi du fracas de sabots d'une fuite éperdue. Un moment plus tard, cheval et boguet étaient hors de portée de voix, laissant l'homme épouvanté dans l'escalier obscur s'interroger sur ce qui les avait chassés. Mais ce n'était pas tout. Il y eut dehors un autre bruit. Une sorte d'éclaboussement. De l'eau? Qui devait venir du puits. Il avait laissé Héro à côté sans l'attacher, et une roue de la voiture éraflant la margelle avait pu en faire tomber une pierre. Et la pâle phosphorescence lui laissait toujours sur ses boiseries d'une odieuse antiquité. Dieu, quelle était vieille cette maison! La majeure partie en avait été construite avant 1670 et le toit à double pente, pas au-delà de 1730. Un faible grattement se fit distinctement entendre sur le plancher du rez-de-chaussée. Et Amy serra plus fort le lourd bâton qu'il avait ramassé à dessein dans la mansarde. Reprenant peu à peu courage, il acheva de descendre et de se dirigea hardiment vers la cuisine. Mais il n'alla pas jusqu'au bout, car ce qu'il cherchait n'y était plus. Il était venu à sa rencontre et gardait encore un semblant de vie. Avait-il rampé ou une force extérieure l'avait-il traîné? Amy n'aurait su le dire. Mais il était frappé à mort. Tout était arrivé dans la dernière demi-heure. Mais le délabrement, la grisaille et la désintégration étaient déjà très avancés. C'était une hideuse friabilité et tout s'écaillait en débris desséchés. Amy, sans pouvoir y toucher, considérait avec horreur l'informe parodie de ce qu'avait été un visage.
C'était quoi, Nahum? C'était quoi?
Murmura-t-il, et les lèvres gonflées et fendues purent à peine émettre dans un grésillement l'ultime réponse.
Rien de la couleur. Ça brûle. Froide et puis mouillé. Mais ça brûle. Ça va dans le puits. Je l'ai vu. Je l'ai vu un genre de fumée. Pareil que les fleurs de ce printemps. Et plus il est clair la nuit. Pimerni, Pizenas, tout ce qui est vivant, à tout, ça suce la vie. Dans cette pierre. Sûr, ça a venu dans cette pierre. Tout pourri. Savoir ce qu'elle cherche. Ce machin rond, ceux du collège, ont tiré de là. Ils ont cassé. C'était la même couleur. Tout pareil comme les fleurs et les plantes. Sûr qu'il y en avait d'autres. Des graines, ça pousse. Je l'ai vu la première fois cette semaine. Sûr que ça a forci avec Zenas. C'est un gars solide. Plein de vie. Ça te démolit le cerveau, puis ça te prend, ça te brûle dans l'eau du puits. Puis t'avais raison là-dessus. L'eau mauvaise. Zenas a jamais revenu du puits. Il peut pas se sauver. Ça t'attire. Tu sens qu'on va t'arriver quelque chose. Mais t'y peux rien. Je l'ai vu pas mal de fois. Depuis que Zenas a été pris. Et Nabi, où elle est? Amy. Amy, j'ai plus ma tête. J'ai plus quand je lui ai donné à manger. Ça va la prendre si on fait pas attention. Rien qu'une couleur. Sa figure à cette couleur-là, quelquefois, pour la nuit. Ça brûle. Après, puis ça suce. Ça vient d'une place où les choses sont pas comme ici. Un de ses professeurs, il avait dit. Il avait raison. Fais attention, ami. C'est pas fini. Ça suce la vie. Mais ce fut tout. Ce qui venait de parler ne put en dire davantage, parce qu'il s'était complètement effondré. Amy jeta une nappe à carreaux rouges sur ce qui restait et sortit en chancelant par la porte de derrière qui donnait sur les champs. Il gravit la pente jusqu'au près de Disarpent pour rentrer chez lui d'un pas hésitant, par la route du nord et les bois. Il ne pouvait pas passer devant ce puits que son cheval avait fui. L'observant par la fenêtre, il avait vu que pas une pierre ne manquait dans la margelle. L'embardé de la voiture n'avait donc rien fait tomber. L'éclaboussement venait d'autre chose. Quelque chose qui était rentré dans le puits après en avoir fini avec le pauvre Nahum. Quand Amy regagna sa maison, le cheval et le bocal étaient arrivés avant lui, et sa femme en était folle d'angoisse. L'ayant rassuré sans autres explications, il se mit aussitôt en route pour Arkham et informa les autorités que la famille Gardner n'était plus. Sans s'étendre sur aucun détail, il parla seulement de la mort de Nahum et de Nabi, celle de Thaddeus étant déjà connue. Il ajouta que la cause semblait être le même mal inconnu qui avait tué le bétail. Il déclara aussi que Merwin et Zenas avaient disparu. Il y eut un interrogatoire interminable au commissariat de police et à la fin, Amy fut obligée de conduire trois inspecteurs à la ferme des Gardner, ainsi que le coroner, le médecin légiste et le vétérinaire qui avait soigné les animaux malades. Il le fit à contre-cœur car l'après-midi avançait et il redoutait de la tombée de la nuit dans ces lieux maudits, mais il se sentit réconforté d'avoir tant de gens avec lui. Les six hommes suivirent le bogey d'Amy dans une charrette anglaise et arrivèrent vers 4 heures à la maison pestiférée. Malgré l'habitude qu'avaient les inspecteurs de spectacles macabres, pas un ne resta insensible à ce qu'ils découvrèrent dans la mansarde et sous la nappe à carreaux sur le plancher du rez-de-chaussée. La vue de la ferme entourée de son désert gris était assez impressionnante, mais celle des deux formes qui s'émiettaient dépassait tout. Personne ne s'attarda à les regarder, et le médecin légiste lui-même reconnut qu'il n'y avait pas grand-chose à examiner. Les spécimens pouvaient néanmoins être analysés, naturellement. Il s'empressa donc de les prélever. Et c'est ici qu'intervint la mystérieuse découverte que l'on fit au laboratoire de l'université, où les deux flacons de poussière furent portés. Soumis au spectroscope, les deux échantillons présentèrent un spectre inconnu, dont beaucoup de raies déconcertantes répondaient exactement à celles que l'étrange météorite avait produites l'année précédente. La propriété d'émettre ce spectre disparut au bout d'un mois.
La poussière par la suite se composant surtout de phosphate et de carbonate alcalin. Amy n'aurait pas parlé du puits aux hommes s'il avait pensé qu'ils avaient l'intention d'agir sur le champ. On approchait du coucher du soleil et il avait hâte de partir. Mais il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux à la margelle de pierre près du grand balancier. Et quand un détective l'interrogea, il reconnut que Nahum craignait qu'il y eût on ne sait quoi au fond, si bien qu'il n'avait jamais même songé à y chercher Merwin et Zenas. Après cela, rien n'aurait su les empêcher de vider et sonder immédiatement le puits. Amy dut donc attendre en tremblant tandis qu'on hissait l'une après l'autre des seaux d'eau tiétide et qu'on les répandait sur le sol trempé. Les hommes reniflaient de dégoût et vers la fin ils se bouchaient le nez devant la puanteur qu'ils découvraient. Le travail ne fut pas aussi long qu'ils l'avaient craint car l'eau était prodigieusement basse. Inutile de décrire plus précisément ce qu'ils trouvèrent. Merwin et Zenas étaient là tous deux, en partie. Car les vestiges concernaient surtout les squelettes. Il y avait aussi un petit daim et un gros chien à peu près dans le même état, et un certain nombre d'ossements d'animaux plus petits. La vase et la boue du fond parurent inexplicablement poreuses et bouillonnantes. Et un homme qui descendit sur les mains de fer avec une longue perche constata qu'il pouvait l'enfoncer à n'importe quelle profondeur dans la boue sans rencontrer aucun obstacle solide. Le crépuscule était venu maintenant, et l'on apporta des lanternes à de la maison. Quand il apparut qu'on ne pourrait plus rien tirer du puits, tout le monde entra pour délibérer dans le vieux salon, tandis que la lumière intermittente d'une demi-lune spectrale se jouait languissement en dehors sur le désert gris. Les hommes étaient franchement déroutés par toute cette affaire, et ne trouvaient aucun élément commun, convaincant, qui aurait fait le lien entre l'état singulier de la végétation, la maladie inconnue du bétail et des humains, et la mort inexplicable de Merwin et de Zenas dans le puits infecté. Ils étaient au courant, c'est vrai, des racontars du pays, mais ils ne pouvaient croire qu'il advînt des faits contraires aux lois naturelles. Le météore avait sans aucun doute empoisonné le sol, mais autre chose était la maladie de personnes et d'animaux qui n'avaient rien mangé des produits du sol. Était-ce l'eau du puits? Peut-être bien. Ce serait une bonne chose de l'analyser. Mais quelle folie singulière avait pris les deux gamins de sauter dans le puits. Ils avaient agi pareillement, et leur reste montrait qu'ils avaient subi l'un et l'autre la mort grise et squameuse. Pourquoi tout était-il si gris, si friable? Ce fut le coroner, assis près d'une fenêtre donnant dans la cour, qui remarqua le premier la lueur autour du puits. Faisait complètement nuit et toutes ces terres exécrables paraissaient émettre une autre clarté que celle des capricieux lunaires. Cette nouvelle lueur, nette et différente, semblait jaillir du trou noir comme le faisceau atténué d'un projecteur et laissait de pâles reflets dans les petites flaques où l'eau avait été jetée. Elle avait une couleur très bizarre et, comme tous les hommes se pressaient autour de la fenêtre, Amy eut un violent sursaut. Car la teinte de cet étrange rayon de miasme morbide ne lui était pas inconnue. Il avait déjà vu cette couleur et craignait de comprendre ce qu'elle signifiait. Il l'avait vue 2 étés plus tôt, sur le sale globule cassant dans cet aérolithe. Il l'avait vue dans la végétation démente du printemps et avait cru la voir un instant, le matin même, devant la petite fenêtre à barreaux de cette horrible mansarde où des choses indescriptibles s'étaient passées. Elle avait, lui, une seconde. Détestable vapeur gluante, elle avait frôlé. Puis le pauvre Nahum avait été saisi par une chose de cette couleur-là. Il l'avait dit à la fin. C'était comme le globule et les plantes. Ensuite, il y avait eu la fuite dans la cour et l'éclaboussement dans le puits. Et maintenant, ce puits vomissait dans la nuit un rayon pâle et insidieux, de la même teinte démoniaque. Amy prouva sa vivacité d'esprit en se préoccupant, même à ce moment d'émotion, d'un détail essentiellement scientifique. Il s'étonna d'avoir gardé la même impression d'une vapeur entrevue en plein jour, devant une fenêtre ouverte sur le ciel matinal, et d'une émanation nocturne qui se détachait comme une brume phosphorescente sur le sombre paysage foudroyé. C'était contraire à la nature, Et il se rappela les derniers mots terribles de son ami condamné. Ça vient d'une place où les choses ne sont pas d'ici, un de ses professeurs l'avait dit. Dehors, les trois chevaux attachés au bord de la route, à deux jeunes arbres rabougris, hennissaient et piaffaient frénétiquement. Le conducteur de la charrette se dirigea vers la porte pour s'en occuper, mais Amy lui posa sur l'épaule une main tremblante. Elle n'est pas là-bas, murmura-t-il. Ils sont dedans des choses qu'on ne sait pas. Nahum disait que quelque chose vivait dans le puits, qui suçait la vie. Il disait que ça devait venir d'une boule ronde, comme une qu'on a tous vue dans le météore de pierre qui est tombé en juin l'année passée. Ça suçait sa brûle, qui disait. Et c'est qu'un nuage de la couleur paille à cette lumière-là, dehors, qu'on peut pas seulement voir ni dire ce que c'est. Nahum croyait que ça se nourrit de tout ce que c'est vivant, et que ça y donne de la force. Il disait qu'il avait vu la semaine passée. Ça doit être quelque chose qui vient de loin dans le ciel. Comme les ailes du collège ont dit l'année passée. Vous savez, pour le metteur de pierre. La façon que c'est fait et la façon que ça marche. C'est pas des façons du monde. C'est quelque chose d'au-delà. Les hommes indécis restèrent donc sur place, tandis que la lumière du puits devenait plus forte, et que les chevaux attachés piaffaient et hennissaient plus violemment encore. Ce fut un moment effroyable, entre la terrifiante malédiction de la vieille maison elle-même, les quatre tas de débris monstrueux, devenant de la maison et deux du puits, dans le bûcher de derrière, et devant ce faisceau mystérieux et sacrilège, une iridescence issue de boueuses profondeurs. Amy avait retenu instinctivement le conducteur, oubliant qu'il était lui-même indemne, bien que la vapeur colorée et gluante l'avait frôlé dans la mansarde. Peut-être avait-il bien fait d'agir ainsi. Nul ne saura jamais ce qu'il y avait dehors, cette nuit-là, et si l'émanation magnifique de l'au-delà n'avait jusqu'ici causé aucun mal à un humain qui gardait toute sa tête. On ignore ce qu'elle aurait pu faire au dernier moment, surtout avec cette puissance visiblement accrue et les signes d'une volonté délibérée qu'elle donna bientôt sous le ciel où brillait la lune entre les nuages. Soudain, devant la fenêtre, l'un des détectives eut un vif et bref sursaut. Les autres s'en aperçurent et suivirent aussitôt son regard jusqu'au pont. Là, où, après avoir erré au hasard, il s'était brusquement fixé. Les paroles étaient inutiles. Ce dont on avait discuté dans les bavardages du pays n'était plus discutable, et c'est à cause de ce fait, dont tous les assistants convinrent de parler plus tard à voix basse, qu'il n'est jamais question à Arkham, de ce diable de temps. Il faut d'abord préciser qu'il n'y avait aucun vent à cette heure de la soirée. Il se leva peu après, mais il n'y en avait absolument pas jusque-là. Même les pointes desséchées des dernières herbes, au chantre grise et flétrie, et la frange sur le toit de la charrette anglaise à l'arrêt, restaient immobiles. Pourtant, dans ce calme tendu, impie, les rameaux dénudés bougeaient à la cime de tous les arbres de la cour. Dans une agitation grotesque et spasmodique, un délire de convulsions épileptiques, comme pour agripper les nuages éclairés par la lune. Griffant en vain les empoisonnés, on les eût dit secoués par quelques chaînes de transmission étrangères et immatérielles, au rythme de souterraines horreurs, luttant et se débattant sous leurs noires racines. Pendant quelques secondes, personne ne respira. Puis un nuage épais et sombre passa devant la lune. Et la silhouette des branches griffues s'effaça momentanément. Alors, ce fut un cri général. Assourdi par la stupeur, mais rauque, et jaillit presque identique de toutes les gorges. Car la terreur n'avait pas disparu avec la silhouette, et pendant un moment effroyable de ténèbres plus denses, les spectateurs virent se tortiller au faîte des arbres mille points minuscules d'une auréole pâle et maléfique couronnant chaque rameau, comme le feu Saint-Elme, ou les flammes qui descendirent à la Pentecôte sur la tête des apôtres. Ce fut une monstrueuse constellation de lumière surnaturelle, tel l'essaim rassasié d'une luciole nourrie de cadavres qui danse d'infernales sarabandes au-dessus d'un marécage maudit. Et sa couleur était la même, intruse, sans nom, qu'Amy avait appris à connaître et à redouter. Pendant ce temps, le faisceau de phosphorescence jaillit du puits était de plus en plus intense, imposant aux hommes serrés les uns contre les autres une impression d'aberration et de cataclysme qui dépassait de loin tout ce que pouvait imaginer leur esprit conscient. Ce n'était plus un rayonnement, c'était un déferlement. Et le flot informe de couleurs indéfinissables en quittant le puits semblait couler directement vers le ciel. Le vétérinaire frissonna et se dirigea vers la porte d'entrée pour placer en travers la lourde barre de sûreté. Émile ne tremblait pas moins, et ne pouvant contrôler sa voix, il dut tirer par la manche ou montrer du doigt quand il voulut attirer l'attention des autres sur la luminosité grandissante des arbres. Les hennissements et les bruits de sabots des chevaux étaient devenus absolument effrayants, mais aucun de ceux qui étaient réunis dans la vieille maison ne se serait aventuré dehors pour tout l'or du monde. De minute en minute, l'éclat des arbres augmentait, et leurs branches remuantes paraissaient de plus en plus se tendre à la verticale. Le bois de la bascule du puits luisait maintenant, et bientôt, un des policiers montra sans mot dire des appentis de bois et des ruches près du mur de pierre à l'ouest. Il commençait à briller aussi, alors que les véhicules à l'attache des visiteurs semblaient encore indemnes. Puis il y eut un grand fracas, un bruit de sabots sur la route, et Amy ayant éteint la lampe pour mieux voir au dehors, ils s'aperçurent que les deux chevaux avaient brisé leur arbuste et fui avec la charrette anglaise. L'incident délia les langues, et l'on échangea des chuchotements embarrassés. Ça s'étend à tout ce qu'il y a d'organique dans les parages, murmura le médecin légiste. Personne ne répondit, mais l'homme qui était descendu dans le puits suggéra que sa longue perche avait dû réveiller une chose impalpable. C'était affreux, ajouta-t-il. Il n'y avait pas de fond du tout. Rien que de la vase et des bulles, et l'impression que quelque chose était à l'affût là-dessous. Dehors sur la route, le cheval d'Amy piaffait toujours et s'écriait assourdissant, étouffèrent presque le faible chevrotement de son propriétaire qui marmottait ses réflexions informes. Ça vient de cette pierre. C'est ça qui a poussé là-dedans. A pris tout ce qui était vivant. Ça vivait dessus. Esprit et de corps. Il a eu tas de Merni, Zenas, Nabi et Naoum pour finir. Ils ont bu de l'eau. Ça a pris de la force sur eux. Ça vient d'au-delà où les choses sont pas pareilles qu'ici. Maintenant, peut-être ça rentre là-bas. À ce moment, comme la colonne de couleur inconnue jetait tout à coup un éclat plus vif et commençait à onduler en fantastiques évocations de formes que chaque spectateur décrirait plus tard à sa manière, le pauvre héros attaché poussa un tel cri que jamais homme n'en entendit de pareil venant d'un cheval. Dans ce salon au plafond bas, tout le monde se boucha les oreilles, et Amy se détourna de la fenêtre, horrifiée jusqu'à la nausée. Il n'y avait pas de mots pour traduire ça. Lorsqu'il regarda de nouveau, la pauvre bête était inerte, recroquevillée par terre sous la lune entre les brancards brisés du bogey. Telle fut la fin de héros qu'on enterra le lendemain. Mais l'heure n'était pas aux lamentations, car presque aussitôt un détective attira silencieusement l'attention sur ce qui se passait dans la pièce même où ils étaient. La lampe éteinte maintenant, il était clair qu'une légère phosphorescence commençait à envahir toute la salle. Elle luisait sur le plancher aux larges lattes, le bout de tapis usé chatoyait sur le châssis des fenêtres à petits carreaux, elle courait même de haut en bas, des poteaux d'angle apparents scintillaient sur le dessus et le manteau de la cheminée. Infectait jusqu'aux portes et aux meubles. Elle prenait plus de force à chaque instant. Et enfin, il devint évident que tout être vivant en bonne santé devait quitter cette maison. Amy leur montra la porte de derrière et le sentier qui montait à travers champs jusqu'auprès de 10 arpents. Il marchait d'un pas mal assuré comme dans un rêve, et sans oser regarder en arrière avant d'être loin dans les hautes terres. Son chemin leur plaisait, car il n'aurait jamais pu passer par devant, à côté du puits. Il fut bien assez dur de longer la grange, les appentis luisants, ces arbres qui brillaient au verger, avec leurs contours noueux et démoniaques. Mais Dieu merci, les branches tournaient vers le haut leurs pires contorsions. La lune se déroba sous de très sombres nuages, tandis qu'ils traversaient le pont rustique sur Chapman's Brook, et ils durent aller à tâtons, de là jusqu'aux prairies découvertes. Quand ils se retournèrent vers la vallée, et le domaine des gardeneurs, loin dans le fond. Ils virent une scène terrifiante. La ferme tout entière baignait dans cette couleur mêlée, inconnue et hideuse. Les arbres, les bâtiments, même la verdure et l'herbage qui n'avaient pas complètement tourné à la fatale désintégration dans la grisaille. Les branches se tendaient toutes vers le ciel, coiffées de langues d'un feu immonde. Et des ruissellements chatoyants de ce même feu monstrueux se glissaient autour des poutres de faîtage de la maison, de la grange, des appentis. C'était comme une scène inspirée d'une vision de Fuseli. Et sur tout le reste régnait cette débauche de lumineuse inconsistance, cet arc-en-ciel hors du monde et hors mesure de secret poison qui naissait du puits, bouillonnant, palpant, enveloppant, s'étendant, scintillant, étreignant, et faisant malignement des bulles dans son cosmique et inidentifiable chromatisme. Puis sans avertissement, le monstre hideux s'enleva tout droit vers le ciel, comme une fusée ou un météore, sans laisser aucun sillage, et disparut par un trou étrangement régulier à travers les nuages, avant que nul n'ait pu émettre un souffle ou un cri. Ceux qui l'ont vu n'ont jamais pu oublier ce spectacle, et Amy, confondue, regardait fixement la constellation du cygne, dont l'étoile d'Énéb brillait entre toutes, et où la couleur inconnue s'était fondue dans la voie lactée. Mais un instant après, son regard était rappelé au plus vite vers la terre par un craquement dans la vallée. Ce fut exactement cela. Rien qu'un bruit de bois qui craque et se fend, et non une explosion comme tant d'autres l'ont dit. Toutefois, le résultat fut le même. Car en un instant fiévreux, kaléidoscopique, jaillit de la ferme ruinée et maudite l'éruption d'une étincelante cataclysme d'étincelles et de substances insolites, troublant la vue des rares témoins et bombardant le zénith d'une trombe de fragments bizarres et colorés, tels que notre univers doit absolument les désavouer. À travers les nuées rapidement renfermées, ils suivirent la grande calamité qui avait disparu et en une seconde s'évanouirent à leur tour. Il ne restait plus en bas derrière eux qu'un abat de ténèbres vers lequel les hommes n'osèrent pas revenir. Et tout autour s'éleva un vent violent qui semblait s'abattre en sombres rafales glacées du haut de l'espace interstellaire. Criant, hurlant, il flagella les champs, tourmenta les bois en une furieuse frénésie, et le petit groupe tremblant comprit bientôt combien il serait vain d'attendre que la lune révèle ce qui restait là-bas chez Nahum. Trop impressionnés même pour suggérer des hypothèses, les sept hommes, sous le choc, retournèrent péniblement à Arkham par la route du nord. Amy, se sentant plus mal encore que ses compagnons, les supplia de le reconduire jusque dans sa cuisine au lieu de regagner directement la ville. Il ne voulait pas traverser seul le bois de nuit, fouetté par ce vent, pour rentrer chez lui par la route principale. Car il avait subi une épreuve de plus, épargnée aux autres, et fut accablé pour toujours d'une peur obsédante qu'il craignit même d'évoquer pendant bien des années. Alors que sur cette colline battue par les tempêtes, les autres spectateurs se tournaient sans hésiter vers la route, Amy avait un instant regardé en arrière la sombre vallée désolée qui abritait, si récemment encore, son ami né sous une mauvaise étoile. Et dans ce lieu lointain, dévasté, il avait vu quelque chose monter faiblement. Mais pour s'enfoncer de nouveau à l'endroit d'où la grande horreur informe avait jailli vers le ciel. Ce n'était qu'une couleur. Mais aucune des couleurs de notre terre ou des cieux. Et parce qu'il reconnut cette couleur, et comprit que ce dernier pâle vestige restait sans doute tapis au fond du puits, Amy n'eût plus jamais eu toute sa tête. Jamais il ne se risquerait dans les parages. Voilà plus d'un demi-siècle maintenant qu'il est arrivé dans cette horreur, mais il n'y est pas retourné. Et il sera trop heureux que le nouveau réservoir fasse tout disparaître. Je m'en réjouirais aussi car je n'aime pas la manière dont la lumière du soleil changeait de couleur autour de la bouche du puits abandonné quand je passais auprès. J'espère que l'eau sera toujours très profonde, mais de toute façon, je n'en boirai jamais. Je ne pense pas retourner par la suite dans la région d'Arkham. Trois des hommes qui avaient accompagné Amy revinrent le lendemain matin voir les ruines à la lumière du jour, mais il n'y avait pas de vraies ruines. Rien que les briques de la cheminée, les pierres de la cave et quelques débris minéraux et métalliques ici et là, ainsi que la margelle de l'innommable puits. sauf le cheval mort d'Amy, qu'ils enlevèrent pour l'enterrer, et le bolgueï, qu'ils lui ramenèrent peu après, tout ce qui avait vécu là avait disparu. Il restait cinq arpents mystérieux d'un désert de poussière grise, où rien depuis n'a jamais poussé. Aujourd'hui encore, il s'étale sous le ciel, telle une grande tache rongée par un acide au milieu des champs et des bois. Et les rares curieux qui ont osé l'entrevoir malgré les rumeurs paysannes l'ont appelé la lande foudroyée. Les rumeurs paysannes sont étranges. Pourraient l'être davantage si les gens de la ville et les chimistes de l'université prenaient la peine d'analyser l'eau du puits désaffecté, ou la poussière grise qu'aucun vent ne semble pouvoir disperser. Les botanistes, eux aussi, devraient étudier la flore rachitique en bordure de cette tache, car elle pourrait élucider l'opinion locale selon laquelle le mal s'étend. Peu à peu, peut-être d'un pouce par an. Les gens disent que la couleur des herbages voisins n'est pas tout à fait normale au printemps, et que les bêtes sauvages laissent des empreintes étranges l'hiver sur la neige légère. La neige ne paraît jamais aussi épaisse sur la lande foudroyée qu'ailleurs. Les chevaux, les rares qui restent dans cette époque motorisée, deviennent ombrageux dans la vallée silencieuse. Et les chasseurs ne peuvent plus se fier à leurs chiens s'ils s'approchent trop de la zone souillée de poussière grisâtre. On parle encore d'influence désastreuse sur l'état mental. Beaucoup de gens sont devenus bizarres dans les années qui ont suivi la débâcle de Nahum. Et ils n'ont jamais eu la force de s'échapper. Alors les gars qui avaient la tête plus solide ont tous quitté la région. Et seuls les étrangers essayaient de vivre dans les fermes croulantes. Ils n'ont pas pu rester, pourtant. Et l'on se demande parfois quelle clairvoyance, plus poussée que la nôtre, a pu leur donner ces réserves farouches et fantastiques de traditions magiques. Leurs rêves nocturnes, protestent-ils, sont affreux dans ce pays extravagant, et le seul aspect de ce coin sinistre suffit à éveiller des idées morbides. Aucun voyageur n'a jamais vu ces gorges profondes sans un sentiment de malaise, et les artistes frissonnent en peignant ces bois épais, dont le mystère frappe l'esprit autant que le regard. Je suis moi-même surpris de l'impression que je gardais de mon unique promenade solitaire avant qu'Amy me raconte son histoire. Quand vint le crépuscule, j'avais souhaité vaguement voir se former quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Ne me demandez pas mon opinion, je ne sais pas, voilà tout. Je ne puis interroger qu'Amy, car les gens d'Arkham ne veulent pas parler de ce diable de temps, et les trois professeurs qui examinèrent l'aérolithe et son globule coloré sont morts. Qu'il y ait eu d'autres globules, on peut en être sûr. Un seul put se nourrir et s'échapper, mais il y en avait certainement un autre qui arriva trop tard. Sans aucun doute, il est encore au fond du puits. Je sais qu'il y a quelque chose d'anormal dans la lumière du soleil que j'ai vue au-dessus de cette margelle miasmatique. Mais quel que soit le démon prêt à y éclore, il doit être attaché de quelque manière. Sinon, il aurait tôt fait de se répandre. Est-il lié aux racines de ces arbres qui griffent? L'un des contes ordinaires d'Arkham parle de ces chaînes épais qui brillent et s'agitent la nuit, comme ils ne devraient pas le faire. Dieu seul sait ce que cela signifie. Quant à la substance, je suppose que la chose décrite par Amy pourrait être un gaz, mais qui obéissait à d'autres lois que celles de notre cosmos. Il n'était pas né de ces mondes et de ces soleils qui brillent dans les télescopes et sur les plaques photographiques de nos observatoires. Ce n'était pas un souffle venu des cieux dont nos astronomes mesurent les dimensions et les mouvements, à moins qu'ils ne les jugent trop vastes pour leurs mesures. Ce n'était qu'une couleur tombée de l'espace. Messager terrifiant, des empires incréés, de l'infini au-delà, de tout ce que nous connaissons de la nature. D'empires dont la seule existence accable l'intelligence et nous laisse paralysés devant les noirs abîmes extracosmiques qu'elle ouvre à nos yeux affolés. Je doute beaucoup qu'Amy m'ait menti consciemment. Et je ne crois pas que son histoire ne soit qu'une divagation de fous, comme les gens de la ville m'en avaient prévenu. Une chose terrible est arrivée dans les collines et les vallées avec ce météore, et cette chose terrible, et que je ne sache pas dans quelle proportion, est toujours là. Je serais soulagé de voir l'eau monter. Mais j'espère qu'il n'arrivera rien à Amy. Il en sait tant de cette chose, dont l'influence est tellement insidieuse. Pourquoi n'a-t-il jamais réussi à partir? Et comme il se rappelait clairement les paroles de Nahum Moran, Popos sauvé, Ça t'attire. Tu sais que va t'arriver quelque chose, mais tu peux rien. Amy est un si brave homme. L'équipe du réservoir se mettra au travail. Il faudra que j'écrive à l'ingénieur en chef de bien veiller sur lui. Je ne veux pas l'imaginer sous la forme de l'horreur grise, tordue, désagrégée qui sans cesse trouble encore mon sommeil.